Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue à notre grande édition du journal Vespéral. D'abord les titres. À Djougouani-Touri, les Codeco frappent encore sur la RN27. 8 véhicules pris pour cible, une femme enlevée et les trafics paralysés dans une nouvelle attaque près du pont Djou. Crise dans l'est de la RDC, l'Afrique se mobilise. Réunis à Addis Abeba, les dirigeants de l'EAC et de la SADC lancent une initiative de paix africaine pour mettre fin à un conflit meurtrier. À suivre aussi dans ce journal, le plan de réponse à la crise sécuritaire et humanitaire actuelle au nord et au sud Kivu. Les projets de la mise en œuvre du dit plan ont été lancés ce mercredi 30 juillet 2025 lors d'un atelier de 2 jours qui réunit à Goma une centaine de personnes. Pour en parler, nous recevons comme invité Patrick D'Oliveira, le chef des bureaux de terrain du PNUD à Goma, au nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour. À Nitouri, vendredi, 8 véhicules sont tombés dans une embuscade tendue par des éléments incontrôlés de la milice Codeco près du pont Djou au village Boubou dans le territoire des Djougou. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont pillé plusieurs biens de valeur appartenant aux passagers et ont pris en otage une femme d'une trentaine d'années. Conséquence directe, le trafic sur la route nationale numéro 27 est fortement perturbé. Récit signé Martial Kiza Biamongo.
C'est vers 12h locales que les premiers véhicules de transport en commun à provenance du Bounia à destination de Mahagui sont tombés dans une embuscade de deux hommes armés de la Codeco. C'était précisément au niveau du pont Djou situé au village Bouboukan, un plateau à 1 km de Djougou Centre sur la route nationale numéro 27. Des sources sécuritaires rapportent que 5 autres véhicules en provenance de Mahagui avec des marchandises et passagers à bord ont également été arrêtés au même endroit par ces miliciens qui ont tiré des coup de feu pour créer la psychose. Des téléphones, plus de 4000 dollars américains et des marchandises ont été emportés par ces malfrats. Une femme qui s'est trouvée à bord d'un taxi a été prise en otage et ramenée dans la brousse vers le village de Gokpa, un secteur de Walendu Djati. Vers Iga Barrière, deux miliciens du groupe Zaïr CRP exigeraient un montant de 50 à 100 dollars américains au véhicule pour obtenir les passages, selon des témoignages de plusieurs usagers. Depuis ce samedi matin, les FRDC ont investi les centres d'Iga Barrière dans l'objectif d'imposer l'autorité de l'État sur la RN27, indique les porte-parole de l'armée. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, ce samedi, de nouveaux combats ont éclaté entre les rebelles du M23, AFC-RDF et les Wazalendo dans les villages de Kamakombe, territoire de Kabare. Ces violences surviennent malgré l'accord de cesser le feu signé à Doha entre le gouvernement congolais et les représentants du M23. Une situation qui suscite l'indignation des acteurs de la société civile locale. Des détails avec Ronéline Tibonera.
Il était 1h du matin, c'est samedi, lorsque le premier tir a retenti à Kamakombe, dans le groupement de Bougoré, territoire des Kabaré. Les rebelles du M23 AFC-RDF ont lancé une attaque contre le village, ciblant les positions de Wazalendo du mouvement décisif de la libération du Congo. Après une brève occupation de la moitié du village par les assaillants, les Wazalendo sont parvenus à repousser les rebelles sur les hauteurs de Kavumu, toujours dans le même secteur. Des sources locales font état d'une riposte déterminée de Wazalendo, qui affirme vouloir poursuivre le M23 jusqu'au village de Katana, situé plus au nord. Et ce n'est pas tout. Dans le territoire voisin de Walungu, une autre attaque attribuée au M23 a visé le sous-groupement de Muzinzi ce même samedi. Là encore, les rebelles se sont heurtés à une résistance farouche des Wazalendo. Des morts et des blessés sont à déplorer selon plusieurs sources sur place. Un regain de violence qui inquiète les acteurs de la société civile alors qu'un accord de principe censé instaurer un cessez-le-feu avait été signé il y a quelques semaines à Doha.
Situation similaire au nord Kivu, une attaque d'hommes armés non identifiés a créé la panique hier vendredi au marché central de la cité de Mweso dans le territoire de Masisi. Le coup de feu nourri provenait de Nirabiria, une localité à proximité de ces lieux de négoce du groupement de Bachali Mokoto. Les rebelles du M23 présents dans les voisinages ont répondu à l'attaque entraînant des tirs croisés, ce qui a été à la base d'une confusion générale. Plus de détails avec Jody Kachama.
Les vendeurs et les acheteurs ont tout abandonné pour se mettre à l'abri. On signale des pertes importantes des marchandises et de plusieurs autres biens au sein du marché de Mouesso. Des témoins affirment que cette attaque coïncide avec une opération de remise d'argent à certains déplacés de guerre se trouvant à Mouesso. Il s'agit d'une assistance humanitaire organisée dans la région des Massissi par Ex-Esper, une ONG d'entraide protestante suisse. Tout porte à croire que les assaillants ont été attirés par l'argent liquide, indiquent les sources sur place. Elles rappellent qu'il y a 2 mois, exactement le 6 juin 2025, un convoi de cette ONG a été intercepté par des hommes armés dans la localité de Maoura, entre Bouvunga et Rumangabo, dans les territoires de Rutshuru. L'ONG Ex-Esper était sur un projet humanitaire en faveur des populations retournées dans la zone de Kisigari. Après avoir livré l'assistance en cash sur l'axe Kabaya, l'équipe tentait de joindre celle se trouvant sur l'axe Kanyezi-Rumangabo quand elle est tombée dans cette embuscade. Fin 2024, l'ONG avait déjà suspendu ses activités dans les territoires de Rutshuru à la suite des incidents sécuritaires survenus à Kikuku dans la chefferie Buito, une chronologie rappelée par les témoins.
À Kinshasa, l'insécurité frappe encore. Pas de répit pour les habitants du quartier Badiadingi dans la commune de Selembao. Des bandits armés sèment la terreur et le dernier épisode remonte à ce jeudi soir. Sur une seule avenue, au moins 7 familles ont été attaquées par des hommes vêtus d'uniformes de police. Le bilan est lourd. Une candidate à l'examen d'État a été tuée, son père grièvement blessé par balle. Une autre jeune fille a été victime d'un viol collectif. La police a ouvert une enquête. Le bourgmestre de Selembao, Mathias Wamumu s'est exprimé sur ces événements tragiques et les mesures prises pour sécuriser le quartier. Il est au micro de Babel Mpongo Massimango. On l'écoute.
Sur l'avenue Potopange, dans une des familles, ils ont violé une fille de 20 ans par cette personne. La fille est prise en charge à l'hôpital sanatorium. Et dans une autre parcelle, ils ont pillé l'argent. Après, ils ont tiré sur le propriétaire de la parcelle. Et une balle a atteint sa fille de 17 ans, qui était même au dernier jour de son examen d'état. Et la fille a succombé sur place. Le propriétaire est hospitalisé. Sa vie n'est plus en danger. Nous sommes descendus sur place avec le PCRIM. Après, on a tenu une réunion de conseil de sécurité dans la commune et on a pris la décision de placer un poste de police parce que quand ils ont fait l'exécution, ils ont appelé la police, mais la police était venue en retard parce qu'il y avait peu la distance entre la résidence et le poste de police. Un professeur a accepté de nous construire ce poste de police dans un bref délai dans l'endroit où nous avons choisi pour assurer la sécurité dans cette partie de la commune.
Et puis, un fait troublant survenu vendredi matin à Badiadingi. Un policier a été battu à mort par des habitants en colère. Selon les bourgmestres, l'homme s'est serait présenté sur les lieux du drame vers 3 heures du matin, prétendant avoir oublié quelque chose lors d'une patrouille la veille. Sur place, une jaquette avait été abandonnée par l'un des bandits. Les habitants ont rapidement fait le lien et la situation a dégénéré. Nous l'annoncions tantôt en titre, la crise dans l'Est de la RDC, un sommet conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est EAC et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est tenu ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif, lancer une initiative de paix 100% africaine face à un conflit qui continue de faire des ravages et à coûter la vie à des milliers de personnes. Les détails avec Jean Gandou Kabongo.
Lors d'une réunion avec des représentants de l'Union africaine et des États membres pour discuter de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, indique Africa News, William Ruto du Kenya et le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe ont pris l'initiative de fusionner les structures des médiations et des secrétariats de la CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe et de l'Union africaine en une initiative unifiée dirigée par l'Union africaine à Addis Abeba. Le président Ruto a déclaré lors de la réunion qu'il existe désormais un processus mené par l'Afrique qui rassemble Nairobi, Luanda et toute autre initiative en un processus cohérent sur la situation dans l'Est de la RDC, a-t-il déclaré, qualifiant la situation actuelle de désastreuse. Il existe une situation humanitaire, une situation sécuritaire grave et une instabilité qui touche l'Est de la RDC, la RDC et les Rwandais, mais aussi toute la région, a-t-il souligné. Pour rappel, en juillet, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont signé avec la RDC une déclaration des principe pour un cessez-le-feu permanent dans l'est du Congo, où les tensions ethniques et la quête des riches minerais ont donné lieu à l'un des conflits les plus longs d'Afrique, faisant des milliers de morts cette année, conclut Africa News.
Santé à présent, au Nord Kivu, faible approvisionnement en médicaments, pas d'appui de la part des partenaires, personnel soignant impayé, population grandement démunie, incapable de se payer des soins de santé. C'est entre autres défis auxquels fait face la zone de santé de Kibwa dans les territoires de Walikale, une zone de santé qui dessert plus de 147 000 habitants répartis dans 20 aires de santé. Tableau dressé par le médecin-chef de zone de santé. Pour le docteur Yves Chongo, tous ces défis ont comme conséquence une mauvaise prise en charge des malades. Le docteur Yves Chongo est au micro de Denise Lukesomapanda.
Les établissements de soins ne sont pas bien utilisés par la population. Rien ne va entrer dans les structures. Et cette ressource humaine qui est là, qui n'a ni prime de risque, ni salaire de l'État, elle devient très instable. Il y a les ressources médicaments. D'abord, nous avons l'absence d'une pharmacie zonale. Les grands problèmes, c'est le faible approvisionnement des médicaments dans la zone. Par manque de moyens, nous avons vraiment ces faibles approvisionnements et des médicaments et des vaccins. Et conséquence, il y a des ruptures de stocks terribles de médicaments, voire même de vaccins. Et là, nous avons une mauvaise prise en charge de malades dans nos structures, surtout les enfants malnutris, qui sont aussi nombreux dans la zone. Il y a manque de plusieurs matériels de base dans les établissements de soins. Les lits opératoires, le lit d'accouchement, le matériel d'anesthésie, pas même des microscopes. Nous manquons même de motos pour faire les supervisions de nos différentes structures.
Dans les Maniema, pendant ces temps, les médecins chefs de zone de santé, les infirmiers superviseurs en charge des programmes élargis de vaccination PEV, ainsi que les animateurs communautaires sont outillés sur les nouveaux vaccins antipaludiques. L'objectif est de lutter contre la morbidité et la mortalité causée par le paludisme. Ceux qui y ont pris part vont les répercuter à d'autres dans leur zone de santé respective. D'autres détails avec les docteurs Walou Lumba Omari, au micro de Florence Kizalunga.
Alors, dans cette formation, il a été question de renforcer les capacités de ces acteurs-là sur l'introduction de ces nouveaux vaccins. Pourquoi ces nouveaux vaccins? Vous savez que le paludisme, c'est la principale maladie au niveau pays en termes de morbidité et même en termes de mortalité. Il y a beaucoup de gens qui attrapent le paludisme et qui en meurent. Parmi les personnes qui meurent, c'est plus les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. C'est ainsi que le pays, avec l'aide de ses partenaires, ils ont jugé utile d'introduire ces nouveaux vaccins dans le calendrier du PEV afin de pouvoir diminuer la morbidité et la mortalité liée au paludisme. Après cette formation de formateurs, les délégués des zones de santé vont rentrer dans leurs zones de santé respectives pour aller former les infirmiers titulaires des aires de santé. Il va s'en suivre les activités de sensibilisation et de mobilisation. Ce n'est qu'après cette étape-là qu'on va passer maintenant à la vaccination proprement dite des enfants.
Nous allons maintenant dans la ville de Matadi au Congo central. Les travaux de réhabilitation du marché urbain de Matadi, communément appelé marché sud, situé dans la commune de Mvouzi, sont à l'arrêt depuis 2023. Ces lieux sont devenus un carrefour où les eaux usées, les herbes et autres arbustes font bon ménage à la grande désolation des riverains. Les habitants de cette partie de la commune de Mvouzi appellent le gouverneur des provinces à achever les travaux afin de doter aux vendeurs qui étalent les marchandises à même les sols un cadre propice pour leurs activités. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Avant l'arrêt de ces travaux en 2023, le marché a connu une véritable métamorphose. Sur place, on peut voir les pavillons modernes construits en matériaux durables, les latrines, les dépôts et autres bureaux. À ces jours, seule la construction des étalages et le finissage restent à faire pour marquer la fin des travaux. Et depuis, tout est à l'abandon et les herbes ont gagné tout cet espace. Pire encore, les matières fécales provenant des fosses septiques des toilettes des parcelles environnantes débouchent sur ces chantiers avant de se déverser sur la chaussée. Situation que regrette cet habitant.
Le gouverneur actuel, il était vice-gouverneur de l'époque. Mais comment expliquer jusqu'à aujourd'hui, ils ne parviennent pas à finaliser les travaux de ces marchés? Nous souhaitons que les marchés soient réhabilités jusqu'à la fin. Tous les mamans là qui vont en cours de route là, qui occupent les marchés, qu'ils soient un peu en sécurité, ça serait une bonne chose.
Pour Pour rappel, en 2022, lors du lancement des travaux, le gouverneur Guy Bondou avait indiqué que cette action visait à redorer ces lieux de négoce, appelés à encadrer les activités commerciales et combattre tant soit peu la création et la multiplication des marchés pirates. Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, la radio Ntsenda Mianda émettant sur la ville de Mwenedi, tout a été fermé jeudi dernier par le maire de la ville ferroviaire. Dans son arrêté, Gérard Chibanda fustige la diffusion par ce média des émissions d'incitation à l'incivisme fiscal et à la haine tribale au préjudice de la paix. Réagissant à cette décision, Chico Shimatu Ntsenda, président du conseil d'administration de la radio Ntsenda Mwanda, rejette ces allégations. Il a été joint au téléphone par Esther Ndarafina.
Nous sommes la seule chaîne sur la ville de Mwenedi-Tou qui demande d'ailleurs à la population de payer les taxes et impôts. Pas plus que hier, nous avons reçu le chef d'antenne de la DGRLO, ville de Mwenedi-Tou, qui sensibilisait sur nos antennes. Les maires de la ville de Mwenedi-Tou, comme il y a une émission sur la radio qui parle de sa gestion, une gestion irréaliste, je souligne qu'on n'a jamais reçu un document venant du maire de la ville pour nous reprocher de ce qu'il a mis sur son document. On n'a jamais incité la population à la haine tribale ni à l'incivisme fiscal. J'ai même ma mère à couper.
Actualité internationale.
Alors que les États-Unis ont annoncé jeudi 31 juillet de nouveaux droits des douanes, l'Afrique n'est pas épargnée. Partenaire secondaire pour Washington, le continent compte plus de 1,6% des importations américaines, mais à l'inverse, 6% des exportations africaines partent vers les États-Unis. Si certains pays ont tiré leur épingle du jeu avec les nouveaux tarifs, leur augmentation est tout de même grave pour des secteurs, que ce soit l'agriculture, l'automobile ou le cacao.
L'invité.
Nous recevons comme invité le chef de bureau des terrains du PNUD à Goma au Nord Kivu. Patrick D'Oliveira nous parle du plan de réponse à la crise sécuritaire et humanitaire actuelle au Nord et au Sud Kivu. Les projets de la mise en œuvre du dit plan ont été lancés ce mercredi 30 juillet 2025 lors d'un atelier de 2 jours qui réunit à Goma une centaine de personnes. Parmi celles-ci, une cinquantaine de délégués d'organisations locales partenaires de Goma et de Bukavu. Que prévoit ce plan? Réponse dans cet entretien avec Patrick D'Oliveira. Suivons-le.
Monsieur Patrick D'Oliveira, bonjour. Vous venez de lancer aujourd'hui le projet de plan de réponse à la crise du PNUD dans les provinces de l'Est de la RDC, Nord Kivu et Sud Kivu. Qu'est-ce qui est prévu d'abord dans ce plan?
Je pense que comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'engouement des organisations et des structures à base communautaire que nous avons identifiées pour nous accompagner dans la matérialisation de la mise en œuvre de notre plan, du plan de réponse à la crise que PNUD a élaboré avec l'implication de tous les partenaires qui peuvent contribuer à réduire un peu la souffrance de ces populations, de ces communautés qui sont doublement affectées par cette crise politico-sécuritaire que nous sommes en train de vivre depuis la fin du mois de janvier dans la région du Kivu. Et donc, ce plan a été élaboré pour appuyer surtout le retour des déplacés, des communautés qui se retrouvent dans une situation de retour plus ou moins forcée parce que n'ayant pas été bien préparés, et les accompagner avec un minimum de dignité pour se reconstruire et se réinstaller dans leur communauté d'origine. Et pour ceux qui sont, pour une raison ou une autre, au niveau des communautés hôtes, de se retrouver avec ces communautés hôtes. Donc il s'agira globalement de travailler d'abord sur une cohabitation pacifique entre ces retournés et les communautés qui les a accueillis, de travailler aussi sur la question de protection. Tout ce qui rentre dans le paquet de violences ou de victimes, de violences que ce soit physique ou mentale, faites aux déplacés surtout et beaucoup plus aux femmes. Et comme vous le savez, dans une situation de retour pas trop préparée, ça peut être aussi l'origine d'un certain nombre de crimes ou de violences qui sont faits. Pendant que nos collègues humanitaires sont en train de travailler sur les besoins urgents en termes de vie sauvée, nous on va se focaliser sur comment permettre à ces gens de transformer leur quotidien en des quotidiens productifs pour leur permettre d'avoir des moyens de subsistance avec un minimum de dignité aussi. Nous visons aussi quelques infrastructures socio-communautaires de base, surtout les maisons des femmes par exemple, pour permettre que les collectivités puissent redémarrer et qu'ils relancent un certain nombre de filières sur lesquelles ils étaient en train de travailler avant que la crise n'arrive.
Et cela pour combien de temps et pour quel budget, ce n'est pas un secret?
Oui, nous avons élaboré un plan de réponse à la crise à la hauteur du besoin, qui est un plan qui est élaboré sur 6 mois mais qui pourra être revu en fonction de l'évolution de la situation. Nous avons adopté des scénarios dedans. C'est un plan de près de 25 millions. C'est pas rien, mais c'est vraiment loin du gap tel que nous voyons dans les analyses et les études préliminaires que nous venons de faire. Mais c'est déjà beaucoup et c'est l'occasion de remercier vivement tous les donateurs qui n'ont jamais cessé d'accompagner la RDC, même dans des situations les plus critiques. Mais je ne peux pas dire tout ça sans rappeler le gouvernement de Kinshasa lui-même, qui à travers le fonds de réparation des victimes, et le fonds Naref que vous connaissez, a mis aussi une grosse ressource, un grand montant au profit de ce plan de réponse à la crise qui nous permet de travailler.
Dans cette situation de crise, quel impact auquel vous attendez de ce projet sur les femmes en particulier?
Pour nous, les femmes représentent la composante la plus vulnérable dans cette situation de conflit, de crise. Et dans un contexte pareil, si on ne veille pas à ce que les femmes non seulement participent au niveau des communautés ou des collectivités locales, on est sûr qu'on passera à côté de notre cible qui est de nous assurer tout au moins que 50% de tout ce que nous sommes en train de faire, au minimum, profite directement à l'amélioration des conditions de vie des femmes, à la protection des femmes et à l'autonomisation des femmes. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de développement sans le développement des femmes.
Quel mécanisme envisagez-vous pour atteindre les bénéficiaires, surtout en ce moment où tous les sites de déplacés ont été démantelés dans la région?
Très bonne question. C'est pour ça que le PNUD a des partenaires. Et vous voyez, tous les partenaires qui sont dans cette salle et d'autres qui sont en train d'être recrutés sont des partenaires qui étaient déjà en action, soit avec le fonds humanitaire, soit avec leur propre fonds. Et donc, travaillant avec ces partenaires, nous sommes sûrs que c'est des partenaires qui ont déjà des bases de données. Une fois retournés dans les communautés, c'est des gens qui ont gardé des liens avec ces personnes qui étaient en situation de déplacer. Et aisément, ils peuvent vous dire exactement où telle et telle communauté que nous appuyons dans les camps se retrouve maintenant en situation de retourner forcée dans leur communauté.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Patrick d'Oliveira, le chef de bureau de terrain du PNUD à Goma au Nord Kivu, qui s'entretenait avec Bernadette Nyangi. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Vespéral, coordonnée et supervisée par Jean Gandou Kabongo, mise en onde par Billy Landry Betou et présentée par votre serviteur. Merci et bonne suite de programme sur la radio de la paix.